nourrit l'esprit, je nourris les perspectives, nuances.
Toujours sur les ondes de Radio Galère,
perturbé par les appels de Guignol.
Petite dédicace au Guignol en question, et on va passer l'interview de la famille de Umut qui avait été abattue en avril par la police suisse. En fait, c'était après un vol de voiture chez un concessionnaire qui a eu une véritable traque. L'autoroute avait été mise sous contrôle, il y avait une voiture et une herse qui bloquaient les voies d'un tunnel. Et voilà, la voiture, elle se retrouve prise au piège. Et il y a un keuf qui tire une à une 7 balles au fusil mitrailleur sur les occupants de la voiture. Résultat des courses, Umut meurt et son frère est en prison pour vol. Voilà, donc là, c'est...
Suspicion de vol.
Voilà, suspicion de vol. Mmh. Il est en prison donc depuis bientôt 6 mois.
6 mois, voilà.
Et donc là, c'est une interview de l'autre frère de Umut, qu'on a un peu coupé. Technicien ?
On se retrouvera après.
Avril, Umut Kiran, 18 ans, est assassiné par la police suisse. Après un vol de voiture chez un concessionnaire, c'est une véritable traque qui commence. L'autoroute est sous contrôle. Une voiture et une herse bloquent les voies d'un tunnel, le piège se resserre. Alors que la voiture ralentit, un policier tire 7 balles, coup par coup, au fusil mitrailleur sur les occupants sans armes. Au nom de la sécurité d'un paradis pour riches, la police suisse n'a pas hésité à loger une balle dans la tête d'Umut. La Suisse n'a pas inscrit la peine de mort dans sa constitution. Pourtant, les petits voleurs sont exécutés sommairement en pleine rue. Le policier, devenu juge et bourreau, a été entendu par un magistrat et a retrouvé son poste 2 jours plus tard. Alors qu'il venait chercher le corps de son frère jumeau, Erdal, est interpellé et emprisonné à Fribourg. Umut est originaire de Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Si cette ville cristallise les fantasmes sécuritaires des Suisses, son nom évoque également la mémoire des luttes émigrées et des quartiers populaires. En 1981, c'est là que débute la marche pour les droits et l'égalité, une réponse de jeunes de Vaux-en-Velin à un crime policier. En 1990, c'est à nouveau l'assassinat d'un jeune de Vaux par la police qui déclenche plusieurs nuits de révolte. Les différentes opérations de réhabilitation n'ont pas changé le quotidien de ses habitants.
Umut a été exécuté en Suisse, mais des crimes similaires ont été commis par la police française ces derniers mois, comme à Grenoble, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2010. Deux hommes soupçonnés d'avoir participé au braquage d'un casino sont pris en chasse par la police. Des coups de feu sont échangés. Ils sont finalement rattrapés par la police à la Villeneuve, le quartier d'origine de Karim Boudouda, l'une des deux personnes pourchassées. C'est d'ailleurs Karim qui reçoit une balle dans la cheville, puis une balle dans la tête, tirée sans sommation. S'en suivent 2 nuits de colère et quelques tirs visant la police. Le dimanche 18 juillet, une 50aine de gens du voyage attaquent la gendarmerie de Saint-Aignan à coups de hache et de barre de fer pour protester contre la mort d'un jeune, Luigi Duquesne, tué par un gendarme dans la nuit de vendredi à samedi pour avoir forcé un barrage. Ces deux révoltes ont été l'occasion pour l'État de déclarer une nouvelle fois la guerre aux délinquants et d'annoncer une série de mesures exceptionnelles renforçant l'appareil répressif, judiciaire et administratif. Si guerre il y a, il faut préciser que c'est une guerre asymétrique. Des armes et la loi d'un côté, des morts de l'autre. Comme d'habitude, les journalistes aux ordres ont pris soin de salir les victimes et d'entretenir les fantasmes autour de la délinquance et de l'immigration. À Grenoble comme à Saint-Aignan, on observe que les révoltes débutent maintenant après l'assassinat d'un dit délinquant, d'un homme que tout conspire à nous présenter comme un repoussoir. C'est alors la justice, et plus seulement la violence de la police, qui est remise en cause. C'est son pouvoir de qualifier une personne de délinquant, et ainsi d'en faire quelqu'un de plus facilement exécutable, qui est contesté.
Lorsque l'État doit réaffirmer son monopole de la violence, il le fait avec les catégories dont l'assassinat par la police suscitera le moins de protestations. Avec les étrangers, avec les délinquants. Dans un contexte de crise, de durcissement de l'État, cette logique est amenée à s'étendre à d'autres catégories. La peine de mort a été rétablie dans certains quartiers, pour certaines personnes, dans l'indifférence. Hier pour lui et demain.
Sa ZUP avec supermarché et commissariat. 88 policiers. À Vaux-en-Velin, une vingtaine de jeunes, les caïds, souhaiteraient faire petit et grand trafic en toute tranquillité.
Madame, monsieur, bonsoir. Scène d'émeute et de pillage à Vaux-en-Velin, une cité dortoir près de Lyon, après la mort controversée d'un jeune motard hier après-midi. Après le drame, les jeunes du quartier s'en sont pris aux forces de l'ordre et la tension n'a fait que croître au fil des heures. Affrontements violents, centre commercial incendié, 7 pompiers blessés et plusieurs journalistes molestés, leur matériel détruit.
Ici, on cultive la haine du policier.
Ils cherchent des victimes, ils cherchent des victimes, chaque jour.
Il y a la prévention.
Mais là, il n'y a pas, la prévention, il n'y a rien.
Tous les jours, ils cherchent des innocents, ils les emmènent là-bas, ils les emmènent là-bas, ils leur mettent des coups, ils savent où les mettre, les coups. Comme ça, après, on peut ni porter plainte, ni rien.
J'suis dans la marche des beurs des années 80. Je me retrouve dans les émeutes, acheter un pavé, un parpaing.
Ce soir y'a pas de staria, de décor, de radiateur dans un commissariat, gueule de paria. C'est la police versus le prolétariat.
Qui sera le prochain, frère et cousin qui finira sous une voiture avec une poêle dans les reins.
L'enquête de nos confrères de 24 heures fait événement. Elle révèle le passé du jeune de Vaux-en-Velin qui a été tué lors d'une course-poursuite en Suisse. Il avait un casier judiciaire, le juge Olivier Thormann le confirme.
Trois voitures puissantes viennent d'être volées dans un garage de Lys, dans le Zeeland. 50 minutes plus tard, la police fribourgeoise repère les trois bolides sur l'autoroute A1. Elle fonce en direction de Lausanne. Aussitôt, la course-poursuite s'engage à une allure folle. Juste avant Payerne, les deux premières voitures s'arrêtent brutalement et leur conducteur les abandonne pour prendre la fuite à travers champs. La troisième poursuit sa course. La police vaudoise l'attend à un barrage installé dans le tunnel de Seva. La puissante voiture arrive à vive allure lorsqu'un policier tire soudain à plusieurs reprises dans sa direction. Dans l'auto immobilisé, le conducteur, aussitôt interpellé, est sur le siège à côté de lui, un passager grièvement atteint par les balles. Ce Français de 20 ans va succomber sur place à ses blessures.
Si l'utilisation de l'arme à feu reste rare en Suisse lors d'interpellations, en août 2001, par exemple, un chômeur français vole une voiture à balles pour ramener sa femme et son bébé chez lui. La police le prend en chasse. Au poste frontière, les forces de l'ordre tirent 18 balles. L'auteur du coup de feu mortel sera acquitté par la cour d'assises du Haut-Rhin. Janvier 2000 à Genève, un ressortissant rome suspecté de vol est abattu par un inspecteur de la sûreté alors qu'il tente de prendre la fuite à bord d'un véhicule. Le défunt n'est pas reconnu par la victime de la tentative de vol. L'agent de police sera condamné à 8 mois de prison avec sursis. En juillet 97, un jeune requérant d'asile kosovar est abattu par un gendarme à l'aéroport de Genève-Cointrin. Il tentait avec deux complices de voler le sac à main d'une voyageuse. Le policier se serait senti menacé par un objet noir brandi par l'un des suspects. L'arme n'a jamais été retrouvée. Le policier a été blanchi. Enfin, au terminus du bus de Marin à Neuchâtel, un contrôle d'identité tourne au drame en 99. Un cambrioleur, originaire d'ex-Yougoslavie, utilise un spray d'autodéfense contre l'un des policiers qui l'interpelle. Ce dernier, aveuglé, tire une seule balle, mortelle. Il sera condamné à 10 jours d'emprisonnement avec sursis.
C'est tous ces criminels que la justice n'a pas condamné. C'est pour ces policiers qui assassinent en toute impunité. Je m'attrape dans la bouche d'affaire.
La famille du jeune homme tué par un policier sur l'autoroute A1 s'exprime. Elle est venue de Vaux-en-Velin pour se recueillir sur les lieux. Témoignage exclusif recueilli par Isabelle Fiot.
Aujourd'hui, sa famille découvre le lieu du drame.
Ils n'étaient pas armés. Peut-être ils ont fait une connerie. Ils ont volé une voiture, deux voitures, peu importe le nombre des voitures. Mais comment ils peuvent tirer 7 fois? Mais à 7 reprises, vous vous imaginez sur 2 enfants.
Aujourd'hui, c'est l'incompréhension, incompréhension renforcée par le manque d'informations.
Déjà, dans les journaux, ils le traitent de voleur, alors que rien n'est sûr. On ne sait pas comment l'enquête s'est déroulée, pour l'instant, on n'a accès à rien du tout, la famille. Et comme on voit, on retrouve les gants des médecins, le sang qui n'est pas encore nettoyé. Et là, c'est une question que je me pose. Est-ce que l'enquête est vraiment fiable? Est-ce que c'est un assassiné qui est déguisé?
Assassin! Police! Assassin!
Il sera enterré à Vaux-en-Velin, là où il a grandi.
Y'a combien de coffres armés qui sont au bord de la crise de nerfs?
Pas de policiers,
un homme austère, regarde travers, une victime à terre.
Nous avons été à Vaux-en-Velin pour rencontrer et passer du temps avec la famille du mute et les écouter parler de Vaux, du mute, de la police, de la justice.
Il y aura 2 enquêtes, ce qui s'était passé sous le tunnel. Il y aura déjà une première enquête qui est prioritaire pour homicide, parce que ils voulaient connaître les circonstances. Et il y aura une seconde enquête qui commencera après l'enquête d'homicide pour vol de véhicule, l'enquête pour homicide pour le policier qui avait tiré. Donc il a eu même pas une garde à vue, il a juste été entendu par ses collègues. L'enquête a duré 2 jours. Le policier par la suite il a pris un congé parce que psychologiquement pour lui c'était assez dur. Donc un congé, il a eu 1 ou 2 semaines de vacances. Ensuite il a repris son travail dans un bureau soi-disant pendant 1 ou 2 semaines. Et après toutes les mesures de contrôle judiciaire qui lui étaient imposées, maintenant il fait son travail, il repatrouille normalement avec un flingue dans la poche, il refait son travail normalement. Et concernant l'enquête du vol, pour une personne qui est suspectée de vol, elle est isolée, ça fait 3 mois qu'elle est en prison. On a eu le droit à qu'une seule visite avec l'IGPN. En plus de ça, on est accompagné de la greffière du juge d'instruction. Il me demandait de parler plus fort parce qu'elle n'entendait pas ce qu'on disait. Il y a des appels qu'il fait. Il ne peut pas parler avec les membres de la famille qui ne parlent pas très bien le français. Enfin, avec mon oncle, avec mon père, parlons trop en turc. Donc du coup, de l'autre côté, on a un tueur. Les faits sont là, qui est en liberté. Et qui, à mon avis, est plus que bien parce qu'en plus, il a un soutien pas possible. Et de l'autre côté, on a une personne qui est suspectée de vol. De voiture, mais qui est là depuis 3 mois en train de pourrir en prison. Avec qui on lui fait la misère et toutes les pressions possibles. Et ils veulent aussi que la peine soit exemplaire.
C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire plus la peine sera exemplaire et plus ils pourront légitimer l'assassinat du mute.
C'est leur stratégie à eux. S'il est libéré rapidement, ils vont dire, de toute façon, il a tué une personne qui c'était pas la peine. Pour 3 mois, au lieu de faire 3 mois de prison, il a eu la peine de mort quand même. Et jugé par un seul policier. C'est-à-dire le policier, il a intercepté le véhicule, il a arrêté en tuant,
Il a exécuté, il a tout fait tout, lui, tout seul.
Ouais, il a fait l'enquête, le bourreau.
C'est normal, il a fait son devoir. Quand on voit que certains responsables politiques suisses qui disent que s'il aurait laissé passer le véhicule, il aurait peut-être été suspendu. Mais ça veut dire que pour des risques d'être suspendu, on va assassiner maintenant. C'est-à-dire, moi, si je suis policier, il ne faut pas que je me fasse suspendre, donc il vaut mieux que je tire une balle, je tue. Pour eux, un véhicule a beaucoup plus de valeur que la vie d'un être humain. Surtout quand il s'agit de... C'est même pas il s'agit de valeur, il s'agit de quoi ? Il s'agit de non-Suisse. Quand il n'y a vraiment rien, il n'y a aucune accusation à faire contre la personne qui est décédée parce qu'elle a reçu une balle. Au pire des cas, il y a deux policiers qui disent « il a essayé de s'emparer l'arme de mon collègue, donc du coup, je lui ai tiré une balle. » C'est qui le juge qui arrive à croire ça ? Parce qu'il est quand même juge, hein. C'est-à-dire, au pire des cas, il a essayé de piquer mon flingue. Donc, du coup, j'avais peur qu'il prenne le flingue et il me tire dessus. Donc, du coup, je me suis servi de mon flingue pour le tuer. Et ça, ça passe. Le policier, il n'a pas de souci parce qu'il y a eu un jugement, il a été acquitté. Donc, pourquoi le policier va s'inquiéter de tirer ? Ça n'inquiète absolument pas parce que derrière, il sait qu'il n'aura aucun souci.
Il est couvert.
Et en Suisse, là, ils ont déjà commis une grave erreur avec... Le meurtre qu'ils ont fait, maintenant, c'est judiciaire, c'est-à-dire ils vont encore bousiller la vie de Erdal parce que non seulement ils ont pris son jumeau, ils ont tué son jumeau, ils ont assassiné son jumeau, maintenant c'est lui. De toute façon, il est mort en quelque sorte avec la douleur qu'il a. Maintenant, ils veulent l'enfermer et lui pourrir sa vie aussi encore. Et derrière, il y a aucune plainte, je veux dire, il n'y a personne qui dit, à part la famille, qui dit que ce n'est pas normal ce qui se passe. Donc quand on ferme les yeux pour une chose pareille, c'est que demain, ça ne les dérangera pas d'en tuer d'autres. À chaque fois, ça va être comme ça. À chaque fois, ça va être comme ça.
J'ai appelé à le juge Thormann. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, j'ai perdu un jumeau et l'autre, il est enfermé dans la prison. C'est pour moi, c'est très, très dur. Et pour mon fils aussi, c'est très, très dur. Il a perdu son jumeau. Et il faut que vous nous assurez qu'on visite pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. J'ai dit, s'il vous plaît, vous, si peut-être vous êtes un père, peut-être vous avez des enfants aussi. Il m'a dit, oui, je suis un père, j'ai des enfants. J'ai respecté votre sentiment, mais il a dit, quand j'ai donné une autorisation comme ça, ça veut dire qu'il faut que je quitte mon boulot. Mais monsieur juge, quand vous donnez une autorisation comme ça pour que je visite mon fils qui a perdu son jumeau que vous assassinez par votre police, vous perdez votre boulot. Et bien quand il a laissé liberté l'assassin, il n'a pas perdu son boulot. Je ne sais pas comment il peut réfléchir comme ça, comment il peut dormir tranquillement.
Je sais pas. C'est un droit que Erdal il avait droit. Un droit de visite, c'est la Cour suprême suisse qui donne ce droit. Je veux dire,
par semaine, une heure.
Minimum une heure par semaine.
Et après, le juge, il m'a répondu comme ça. Mais comment ça qu'il peut dormir tranquillement? Comment ça que la question que je lui demandais, il ne va jamais réfléchir que moi aussi j'ai des enfants là. Je dis, il faut que je voie mon fils. Dans 2 semaines, dans 3 semaines, il faut que je fasse une visite parce que j'ai perdu son jumeau. Et lui, il a perdu son jumeau. Mais pourquoi lui, il est dans la prison? Le assassin, toujours, il est libéré. Et bien sûr, c'est la faute à des juges. Il n'y a pas de justice. Il va défendre son truc du gouvernement. Maintenant, comment ça qu'on va commencer? On va confiance à qui? Par exemple, ça m'arrive quelque chose. Par rapport à mon mari, par rapport à mes enfants, n'importe quelle famille, ça arrive une chose comme ça. Il peut appeler qui pour le sauver? On peut appeler qui? Et maintenant, quand le policier il est menacé, police il tue, on confiance à qui? Et police il tue, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de justice. Le juge, il est là à côté de police. Le procureur, il est là à côté de police.
Bon, une garde à vue, il a juste été entendu par ses collègues. L'enquête a duré 2 jours. Le policier, par la suite, il a...
J'ai perdu mon fils et l'autre, il est dans la prison. Encore, j'ai pensé la nuit. Mais qu'est-ce qu'ils sont fait à mes petits enfants? On confie à qui? Et maintenant, même je vais mourir chez moi. Même si un voyou me tabasse et il me tue, je ne peux pas appeler la police. Je préfère qu'un voyou il me tue. Je préfère pas que je vais appeler la police, que la police il me défende. Parce qu'ils sont trop lâches. C'est pas le police, c'est les juges, c'est justice et c'est le procureur. Vous comprenez?
Et qu'elle est en prison, on a eu le droit à qu'une seule visite avec qui j'appelle. Et en plus de ça, on est accompagné de la greffière du juge.
Par exemple, mon fils. Même je ne sais pas qu'il est parti pour voler en voiture. Il est passager. Peut-être qu'il est parti avec son copain. Peut-être qu'ils ont fait une connerie. Peut-être qu'il est volé en voiture. Peut-être que c'est un voleur. Mais on ne peut pas tuer. Il y a une prison. Il y a une justice. Il y a une procureur. Il y a de tout. On ne peut pas tuer. Maintenant, je peux jamais avoir mon fils. Jamais, jamais. J'espère que la douleur qu'elle a dans mon cœur, elle va entrer dans sa cœur. Ça me touche trop. Ça me touche trop, ça me touche trop. Je vive et je pas vivre, ça m'est égal.
C'est tombé sur mon petit frère, mais ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre et tout. Il faut vraiment se battre pour pas qu'il y ait d'autres histoires. C'est souvent en se disant, ça arrive toujours chez le voisin, qu'on ne réagit pas et que finalement après, c'est le jour où ça nous arrive à nous qu'on se dit, putain, merde alors. Et là, on se rend compte qu'en fait... je dis pas qu'il y a personne autour de nous, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de personnes, vous y compris, qui êtes venus de Paris jusqu'ici et tout, mais je pense qu'il n'y a pas encore une force vraiment, quelque chose qui peut s'opposer vraiment à ça, qui peut les faire vraiment chier, mais vraiment il faut qu'il y ait quelque chose qui soit là. Je sais qu'on ne pourra pas éradiquer ce truc, c'est un fléau, je veux dire, c'est comme la gangrène. J'en suis sûr qu'en combattant, on peut sauver des vies quand même. J'en suis sûr qu'on peut sauver des vies. Parce que là, c'est pas possible qu'on se fasse tirer comme des lapins et qu'à la fin, c'est presque le policier maintenant, c'est devenu le chouchou des Suisses. C'est devenu le chouchou des Suisses parce que sur Facebook, il a un soutien pas possible. Des partis politiques, l'UDC et tout, le soutiennent. C'est devenu. C'est lui la victime dans tout ça finalement. Et même quand un journal. Qui a eu le malheur de faire une première émission où elle avait exprimé la douleur de la famille, qui disait que justement sur les lieux du drame et tout, on était présent. Il y a eu un petit reportage où on nous a laissé nous exprimer sans faire trop de coupures, on diffusait ce qu'on avait dit. Ça, c'était vraiment un truc qui a été critiqué par tout le monde. Même le fait que l'avocat, il disait que. Il faut voir comment ils voyaient ça, les hommes politiques là-bas, et qu'un homme politique suisse pour une enquête en cours. Dans une émission infrarouge en Suisse, il dit que le policier il a fait son travail. Si j'avais eu 15 balles dans mon chargeur, je les aurais vidées sur lui. Ça, c'est des hommes politiques qui le disent. C'est un député suisse de Genève qui dit ça. En Suisse, la peine de mort, elle n'existe pas, soi-disant. Elle existe, mais sans même procès. C'est beaucoup plus pratique pour eux. C'est plus un truc, un accident au courant, lui dire c'est. Voilà, c'est. Le flic s'est senti en danger, il avait qu'à voler la voiture. On oublie que ce soir-là, il y a eu vol, peut-être, mais il y a eu aussi un meurtre. Un meurtre, et le meurtrier, il est libre, et celui qui est suspecté de vol, il est en prison. Pour quelle raison il est en prison? Parce qu'il y en a, il est policier, et l'autre, il n'est pas policier. Qu'il a un passé ou un casier judiciaire ou pas, c'est, pour eux, c'est automatique. Parce que le policier, il a un devoir, c'est de protéger les riches. Il est là que pour ça, donc alors il faut pas toucher à leurs biens. Ça, c'est un truc, le plus gros crime qu'on peut faire. Comme Carrefour, ils ont tué un Ezer parce qu'il avait volé une canette de bière à Carrefour La Part-Dieu. Et Carrefour dit qu'elle va reprendre ces personnes qui ont tué. Mais c'est encore pire, c'est qu'ils l'ont torturé carrément, il est mort entre leurs mains. Il a agonisé presque parce qu'ils l'ont étranglé, ils l'ont tué entre leurs mains. C'est encore pire que tirer avec un pistolet parce que je sais pas moi, ils l'ont senti mourir, ils l'ont vu, ils l'ont senti partir entre leurs mains. Et ces gens-là, on leur dit, vous pouvez revenir travailler pour le même poste. Parce que là, ils vont donner l'image que Carrefour, on ne vole pas chez Carrefour. Aujourd'hui, on a tué X. Il regarde la réaction, personne n'a rien dit, donc je ne sais pas encore continuer à faire ça. Il n'y a aucune révolte derrière. Ils essaient de nous emprisonner, je veux dire, virtuellement, je veux dire... Il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien, mais finalement on est emprisonné, je veux dire.
On s'attache à ce qu'on a, chaque jour la vie est un combat. Ne pas sombrer dans le néant, le coma. Ici on a tout raté, quand les drogues sont bradées. Quand sous la pression les cervelles vont éclater. Qui est aux neurones, pour nos branleurs, nos drôles. Des menottes au poignet ou sur le dos, le sac décolle. La bague joue les folles en bas des halls. Sous le regard hostile de la foule au premier contrôle. Antisocialerie aiguë dans nos quartiers déchus. Comme ici on sait se goûter le pu à bâton rompu. C'est le fils du béton, au-delà de la musique, au-delà du son. Au-delà des cultures, des races, des religions. Universel, c'est qu'elle, des colons, des colonels. Universel comme la terre d'Afrique, le ghetto polonais. Exploser les murs, les grillages, les barrières. Vous avez déjà vu les frères déclencher les enfers. Damary, l'Élysée, Villiers, le Bel, la housse des bois. Le Mirail, Sartrouville, Clichy sous bois. À la mémoire des martyrs, morts dans un hall, une cave, dans leur geôle. Dans une ruelle, sur un parking. Écoute, je suis l'huile sur le feu. Je suis la pierre jetée sur l'uniforme bleu. Je suis la révolte des malheurs. Des zones d'ombre, de la folie, du surnom. On pourrait se poser dans le quartier comme on pourrait poser une bombe. Icar au-dessus des tours, au-dessus du four. Rien ne se répare à tout ce que le ghetto a rendu fou. Quand les âmes gueulent leur malaise à t'en rendre sourd. On a du mal à s'ouvrir, à te parler d'amour. Bien sûr qu'on aimerait s'élever au lieu de dévier. Au lieu de ses destins, d'herber au-dessus de l'évier. Fils du béton, hommage à ma population. Histoire d'honorer nos gens, nos quartiers de concentration.
On parlait des rapports qu'il pouvait y avoir maintenant entre la population, une certaine population, comme on disait tout à l'heure, une population plus pauvre, plus astreinte au chômage, au RSA, et le rapport qu'il y a entre ces gens et la police, elle est de plus en plus dure. Alors à la fois, il y en a qui se révoltent, et puis il y en a d'autres qui rasent les murs, qui ont peur, qui sont dans une situation tellement de précarité que ça renforce leur peur. Tu sais, je voulais que tu me racontes l'histoire qui t'est arrivée, parce qu'il se trouve que je l'avais lue dans le journal et que tu nous en avais parlé lors du concert. Mmh.
Bon, en fait, là, à partir du moment que, quand il y a une interpellation de la part des polices, surtout quand c'est suite à une erreur ou à un abus de la part de la police, quand il y a une personne qui vient dire qu'en fait, il y a une erreur, à essayer d'expliquer la réalité, dans la logique, c'est ce qu'ils cherchent, je veux dire, c'est la vérité, je veux dire, c'est la pub qu'ils font, c'est quand on veut la vérité. Ils sont là pour ça, donc du coup, moi je me suis rendu au poste de police parce qu'il y avait une erreur, ils avaient fait erreur sur les jumeaux, j'ai essayé d'expliquer cette chose-là, mais pendant que j'essayais d'expliquer qu'ils ont fait une erreur parce qu'ils ont embarqué la mauvaise personne et que la personne qui s'était soustrait au contrôle allait bientôt arriver se rendre, malgré tout ça, ah oui, mais non, cette personne-là nous a insultés. Moi, j'entendais à ce moment-là mon petit frère en train de se faire tabasser dans un bureau à côté. J'entendais les coups et en train de crier « Aidez-moi, sortez-moi, ils sont en train de me tabasser !» Parce qu'il a été tabassé en bas de l'immeuble. Le contrôle, c'est à partir du moment que c'est un jeune de banlieue d'origine étrangère, quand ils disent qu'il y a cette personne qui correspond à cette description-là, c'est bon. Pour eux, avant même une vérification de pièces d'identité, c'est qu'on arrête la personne, on le plaque au sol avec une telle agressivité que la personne ne sait même pas pourquoi. Surtout quand on n'a rien fait. Si on a commis, je sais pas, quelle que soit l'erreur et qu'on sait que bon bah finalement c'est peut-être pour ça qu'on nous a arrêté.
On n'est pas surpris quoi.
Je veux dire, on n'est pas surpris. Puis peut-être qu'on va dire ok c'est bon. Mais là c'est pourquoi vous faites ça, pour quelle raison vous m'arrêtez comme ça. Du coup après, moi je dis que c'était pas normal, j'ai insisté. Et quand j'ai insisté, il y a une personne qui m'a appelé, un policier qui m'a appelé, il m'a dit écoutez monsieur, venez, je vais pouvoir vous aider. Je suis parti vers lui en pensant que il allait pouvoir m'aider. Et c'est là que j'ai commencé à recevoir les coups. Parce qu'en fait, je me suis pas rendu compte, c'est que j'étais hors de la vision
de la caméra.
Et là, j'ai reçu des coups. Et je me défendais pas parce qu'ils étaient 5-6 policiers, je pouvais même pas me défendre. Et à un moment, j'étais plaqué au sol, je n'arrivais plus à respirer. Et là, je disais, j'arrive plus à respirer. Là, ils étaient plus que deux, mais ils bloquaient tellement, je veux dire, de toute façon, j'avais la tête, les deux yeux gonflés, comme ça, j'avais vraiment la tête qui avait doublé de volume. J'étais plaqué au sol, et c'est à ce moment-là que mes parents ils sont arrivés. Et je pense qu'un un jeune qui a vu ce qui s'est passé, il a forcé la porte pour rentrer dans le commissariat. Mais il n'y a vraiment pas eu de casse ou quoi que ce soit, c'est juste la porte, elle a été forcée pour être rentrée. C'est là qu'ils m'ont relâché. Moi, je suis persuadé que là, c'était peut-être pour moi, et s'ils me retenaient encore 30 secondes ou une minute comme ça, j'étais...
T'étais en train d'asphyxier ?
J'étais en train d'asphyxier, j'étais vraiment... C'est après que je réalise qu'en fait, finalement, j'étais en train de me faire tuer. Et là, Le commissariat a été rempli de CRS au bout de 10 minutes. On était, j'étais menotté comme ça sur une chaise. Et il y avait plein de CRS tout autour. Et on entendait leurs discussions, mais ça se passait vraiment devant nous. Alors qu'est-ce qu'on va leur mettre? Qu'est-ce qu'on va leur mettre? Et c'est là, devant nous, ils ont monté leur scénario. Et quand on leur disait, mais est-ce que c'est normal et tout, vous dites ci, vous dites ça, ils disaient, moi personnellement, je n'ai rien à foutre. Je sais que c'est toi qui vas morfler. En plus, on va porter plainte contre toi, tu vas me payer. Ça, quand on l'entend et qu'on sait qu'on a les bras, les mains liées, on ne peut rien faire, c'est ça qui tue le plus. C'est même pas les coups qu'on a reçus, la peine qu'on a reçue, c'est surtout ces mots-là. Et surtout quand tu passes devant un juge qui est là, je sais pas moi, il y a une période, bon maintenant c'est fini, c'est vraiment un truc, le juge pour moi c'est quand j'entends parler de juge, c'est le pire des escrocs qui puisse exister au monde. Hein. C'est, malheureusement j'ai cette image-là. Et parce que, pourquoi? Parce que un juge, alors que j'étais innocent, a dit que j'étais coupable. Alors qu'il avait tous les éléments, même les vidéos caméras. C'est eux qui leur permettent de faire ça. Pourquoi le juge il est là? Parce que c'est encore pour la même histoire. C'est les riches qui ont décidé qu'il soit là. Par rapport à ça, c'est, on est là. C'est, et ça, c'est à tout le monde, à tous les étrangers, tous ceux de banlieue. Ça se passe devant tout le monde, en fait. Finalement, aucun témoignage n'est accepté des personnes qui veulent témoigner parce que les seules personnes qui disent que c'est pas normal ce qui se passe, ils ressentent des coups aussi. Et ils se retrouvent dans, dans le même problème. C'est devenu presque un truc où les gens, pour eux, c'est normal que la police, elle tape et que c'est manque de chance, en fait, finalement. Donc, du coup, personne ne dit rien. Et personne ne dit rien et eux, ils ont la voie libre. C'est des cow-boys, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils disent, là, il y a marqué police en montrant... leur brassard, donc tu fermes ta gueule.
En fait, suite à cette histoire qui s'est passée au commissariat, c'était au commissariat de Vaux-en-Velin.
Oui.
En fait, après, toi, tu as été inculpé puisque tu avais laissé tes papiers. Et tu as été inculpé de quoi?
Bah, outrage à agent, et puis coups et blessures, alors que j'avais la tête gonflée, j'avais les certificats, les rapports, tout ça, avec 15 jours ou 45 jours d'ITT, mais c'était vraiment énorme. Il fallait que je prenne ça dans les dents. Et il fallait surtout pas que je fasse appel, parce qu'à l'appel, c'est un autre tribunal.
T'as pris combien?
J'ai pris 3 mois de sursis. Et plus les PV et tout, il fallait indemniser les policiers qui m'ont tapé, parce qu'ils ont dû se faire mal en me tapant. Et ce qui me déçoit le plus, parce que ça, franchement, c'est, ça aussi, ça m'a vraiment mis hors de moi. J'avais 29 ans quand ça s'est produit. Bon, j'avais pas de casier judiciaire. C'est-à-dire, si auparavant, j'avais une autre histoire pareille, ça aurait pu être du ferme. Et puis le pire, c'est que j'avais vraiment de la chance de ne pas être un chômeur. Que j'occupais un poste, je faisais partie d'une boîte où j'étais associé. C'est ça qui a permis que je ne me suis pas retrouvé en prison. C'est-à-dire, si c'est, ça arrivait à une personne qui n'avait pas de travail parce que, pour X ou Y raison, parce qu'il n'a pas l'expérience ou parce qu'il vient d'arriver en France et qu'il ne peut pas exercer son métier, pour quelqu'un d'autre, ça aurait pu être du ferme. 10 mois de ferme, pourquoi? Parce que bah, ses moyens économiques derrière n'allaient pas. Et ça aussi, je trouvais, même pour ma défense, ça me dérangerait presque pour dire qu'en fait, moi j'ai un travail, j'ai pas de casier judiciaire. Pour moi, ça me dérange un petit peu parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai peur qu'un policier s'approche. Et... parce que je sais que si demain, je me retrouve récidiviste, et puis en plus, si demain, j'ai plus de boulot, je peux même pas me rebeller. Enfin, ça sera pas comme ça, mais bon. Pour une personne, ça le met dans une situation, ah, il faut absolument pas que je perde mon boulot, donc toutes les injustices que je vais avoir de la part de mon patron ou du chef, je vais fermer ma gueule parce que si je perds le boulot, je vais me retrouver chômeur. Et je sais que si tu comptes au chômage, tu ramasses plus que quelqu'un qui travaille. Et en plus de ça, s'il y a un policier qui dit quoi que ce soit, je vais fermer ma gueule. Je vais accepter ce qu'il dit tel quel, parce que si je me rebelle, ça va être un outrage. En plus, si je suis entre-temps chômeur, c'est qu'il y a un moment de la ferme que je vais ramasser. En fait, c'est un truc tout à fait injuste. C'est tout à fait injuste.
Putain de vie au fond du crâne. C'est comme moi, frérot, dans le combat, la vie qu'on mène. Trop d'animaux qu'on prétend être, je rentre deux, profil bas, ça joue pas phénomène. Bien sûr que je flippe comme un carcère, on me cartonne, ouvert droit, où se retrouve la gueule à terre. Surtout pas se faire serrer, donc on fait le tri. Silencieux, plus trop souvent, on dit pas de ceux qui déblatèrent. Préfère ce qui brûle à ce qui brise, quand on voit, pareil que c'est hybride. Comme notre son, grave et crasse, pas si c'est trop frais. La trouille de tourner dingue, à force de le faire en 11, qui fait de 16 sera rien, c'est comme brailler sur l'autoroute. Mato tourneau, leur monde brouille sous les parures. La terre en désinterne, les familles au parloir. Même si les procureurs on est cerné. Un coup du sort on y atterrit, ils sont austérés. Peut pas faire si pas le voir. On s'en tire avec ce qu'on a sous la semelle. Ils s'amusent à les berner. Mais pas d'histoire, ça guette sa plane. Qui se font dans une semaine. En sursis on le sait, t'inquiète. Pas à plein, même quand c'est dur. À ceux qui y sont, on serre les dents. hardcore ce qu'on leur souhaite. La loi ce qu'il applique et leur putain de procédure. Et cette fierté de pudeur, tant qu'on déteste, c'est peu qu'on aime, même pas foutu de leur dire. On tue, on endure ce putain de quotidien. Qu'on le même trou dans le bide, bientôt dans le crâne, leur tue, c'est pas terrible.
Ça débattasse, c'est rien.
On fond d'état comme les perrues, des fois du mal à se battre, on tente de se pendre, un seul but qu'on se libère avant d'être barge. Pas laisser la rage s'éteindre, tout cas aussi tendre, qui rase les cages, frérot, baisse pas ta gamme, et côté des attentes. Courance dans la gorge, à la 20 piges, y'a des pages qui se tournent pas. Ma haine, putain d'éponge, à l'époque, pour les sales gosses qui dorment pas. Gamber, j'suis trop t'inquiète, dont on se venge.
Autant il y a quand tu décris l'attitude de la police vis-à-vis des gens de ces quartiers, on comprend qu'il y a une haine qui s'est fabriquée au fur et à mesure des injustices. Mais je trouve qu'il y a un phénomène nouveau, c'est ce regard maintenant sur la justice. Parce qu'avant, autant c'était clair que le rapport avec la police, c'était forcément un rapport, enfin c'était un rapport conflictuel. Mais la justice, elle était relativement épargnée. Alors que là, maintenant, elle apparaît clairement pour ce qu'elle est. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plus de gens qui se rebellent comme à Grenoble dernièrement. Je sais pas ce que t'en penses.
Au début, les gens, ils avaient encore tendance à croire qu'il y avait une justice et que plutôt parce qu'ils n'avaient pas apporté les preuves qu'il fallait et tout pour pouvoir se défendre. Puis avec le temps, c'est que à force de vivre toujours la même chose, c'est que il y a des gens qui commencent à prendre conscience que finalement, c'est toujours la même chose. Quand il y avait des émeutes dans les banlieues, avant, c'était un problème de société. Les personnes qui sont dedans, dans les cités aussi, ils sont montrés du doigt. Maintenant, c'est tous potentiellement des voleurs.
Des délinquants.
Des délinquants, derrière, il y a une aide médiatique vraiment, il y a des journalistes qui sont là que pour pouvoir aider ça. Il y a un truc vraiment de communication. Ils ont fait passer leur jeu depuis très longtemps, maintenant ça ne marche plus. Ça ne marche plus, ça passe plus. On se rend compte de plus en plus que c'est parce que c'est la justice qui est là, le mal il est là. En étant pauvre et en n'ayant rien, je veux dire, c'est j'ai plus peur de la police alors que je travaille normalement, je veux dire, je n'ai pas de raison à en avoir peur. Mais un contrôle, ça peut trop vite tourner mal parce que c'est ferme ta gueule. Il suffit que deux personnes parlent turc. Si vous ne parlez pas turc, parlez français. Je veux dire, c'est un truc, mais vraiment, je sais pas où on va. Mais ça s'empire parce que derrière, il y a le gouvernement aussi qui est là. Tout de suite, le président Ismaël, et il fait passer des choses. Moi, je suis persuadé que d'ici 2 ans, on ne pourra plus bouger les cheveux. Et derrière tous les trucs sociaux qui sont en train de changer, les réformes et tout, ce qui est qu'une seule chose qu'ils ont peur, c'est la révolte. Parce qu'ils font passer tellement de choses par rapport à la retraite, ils veulent enlever la sécu. Ah là, mais de toute façon, bientôt, c'est plus personne n'a rien à me dire, c'est que tu fermes ta gueule.
Tu baisses les yeux.
Tu baisses les yeux, et puis ils en font ce qu'ils veulent. Puis on va leur offrir des cadeaux parce que c'est un policier, c'est ce qui se passe.
Bonsoir.
Bonsoir, ND Chen, voilà, c'était le petit témoignage. On vous donnera des nouvelles bientôt par rapport au procès qui se passe. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Et dans d'autres situations, on peut se réjouir que
dans
la
certains
haine
cas,
du flic dépasse la peur du gendarme. ND Chen, à la semaine prochaine.
Dans
15 jours.
Un jour, un monde complexe de tours fièrement dressées, de conglomérats d'usines et d'ateliers, de cargos sur toutes les mers et de commerce international perpétuel s'effondrera. Tout débutera par exemple dans un bureau anonyme au 50e étage d'un immeuble en Chine, mais qui pourrait tout aussi bien se situer à Singapour ou à New York, Londres, Francfort, voire à Sao Paulo. Là, quelques responsables catastrophés découvriront l'ampleur des pertes que leur banque devra à un employé indélicat, à des placements hasardeux ou à des produits si sophistiqués qu'on aura oublié d'inventer l'outil mathématique qui permettrait d'en mesurer la rentabilité. Les choses pourraient en rester là. Cela ne ferait qu'une faillite de plus, créatrice d'un déficit qu'un État habitué à la règle de la privatisation des profits et socialisation des pertes s'emprincerait d'éponger. Oui, mais voilà, ce jour-là, à cette faillite retentissante, s'ajoutera une foule de petits événements qui, chacun pris isolément, seraient certainement sans grandes conséquences. Des remous dans les bourses asiatiques, des crédits interbancaires en chute libre, une crise des liquidités, des cours mondiaux de matières stratégiques en hausse exponentielle. Ce jour-là, tous ces événements structurels ou conjoncturels se lieront soudain dans ce nœud commun qui les étranglera tous, une véritable crise de la valeur. La valeur s'est si vivement et si complètement dispersée dans le capitalisme contemporain que, croyant encore pouvoir la trouver partout, on découvrira d'un coup qu'elle n'est plus nulle part. La monnaie marchandise a pratiquement disparu au cours du XXe siècle, ne subsistant qu'à l'état symbolique de référence à l'idéal monétaire. Quatre siècles de domination absolue du monde marchand ont fait de la foi en la monnaie le substrat de la valeur. Mais l'argent est aujourd'hui comme le droit divin à la fin de l'Ancien Régime. C'est parce qu'on n'en imaginait pas la fin qu'il se perpétue encore. L'argent est le Louis XVI de notre temps. Un jour, un monde complexe de marchés mondiaux interconnectés et de capitalisme triomphant s'effondrera. Le problème n'est pas de savoir si cela aura lieu, ni quand, ni même quand, mais bien plutôt, qu'arrivera-t-il après ? Cette question n'est pas anodine. On ne peut certes pas y répondre avant que cet événement gigantesque n'ait lieu. Mais si la réponse n'est pas d'actualité, la question l'est certainement. Catastrophe, anéantissement ou révolution ? De ce que nous faisons aujourd'hui dépend ce que nous serons capables de faire demain. Mort au capital, un livre de Léon de Matisse apparaîtra un jour.
C'est parce qu'on n'en imagine pas la fin qu'il se perpétue encore.